Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Une minorité invisible, les Juifs noirs de France. À la question, existe-t-il des Juifs noirs ? Les gens auront du mal à répondre, surpris par le fait que ces deux catégorie de personnes qui, pour beaucoup d'Occidentaux, représentent l'autre dans l'absolu, hein, l'altérité comme on dit, ils trouvent que c'est une question qui n'a pas lieu d'être parce que pour eux la réponse est claire, il n'y en a pas. Alors si on ajoute une deuxième question, y a-t-il des Juifs noirs en France ? La question est encore plus surprenante, beaucoup de gens diront mais pas du tout, il n'y en a jamais eu. Or c'est tout à fait le contraire qui apparaît aujourd'hui comme une évidence, notamment après la lecture d'un livre qui vient de sortir et dont l'auteur Gershon Doua est notre invité. Donc être juif en France et noir en même temps, c'est quelque chose qui est visible. Mais la question c'est visible depuis combien et visible depuis quand ? Alors l'une des choses que l'on peut dire c'est que dans la lutte qui a conduit progressivement à l'état de droit et à la démocratie, ceux qui se sont le plus distingués ont bien vu et ont très bien associé ces deux questions. Je voudrais citer ici le nom d'un abbé qui, à la différence des autres abbés, disons de l'Ancien Régime, qui étaient presque tous antisémites et antijudaïques, était un défenseur à la fois du droit des Juifs et des droits des Noirs à l'époque à l'esclavage. C'est le fameux abbé Grégoire. Et Grégoire a associé, donc à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, a associé ces deux peuples dont il disait que si la France ne résout pas la question de leur mise à l'écart injuste, elle ne sera jamais un État de droit. Alors Gershon Doua, vous êtes juif noir. Vous êtes né au Congo, vous avez eu un itinéraire, j'allais dire compliqué, mais c'est la mondialisation d'aujourd'hui. Vous êtes passé au Brésil, vous avez été au Cameroun, vous avez été un peu partout jusqu'à arriver en France. Première question, non pas pourquoi, parce que ça n'a pas de sens. Comment êtes-vous devenu juif ?
Ben, je suis né effectivement au Congo où j'ai fait presque toute la partie de mes études. Et en 88, j'avais la chance effectivement d'avoir une bourse d'études, mais il y avait une seule bourse, Israël. Les autres bourses étaient Allemagne, France et tous les pays occidentaux. Mais tout le monde, effectivement, parmi les gens qui étaient intéressés, personne n'avait pensé à toucher à la bourse d'Israël parce qu'effectivement, à l'époque, on montrait les images des guerres, la vie. On pensait que la vie était impossible en Israël. Moi, ben, j'étais un peu accoutumé avec les Juifs déjà à partir de Kinshasa et c'est arrivé effectivement notamment l'ambassadeur Shlomo Avital et puis le rabbin Eliaou, que je connaissais bien. Il s'est avéré que, bon, moi j'étais intéressé par cette bourse-là. Mes parents étaient tout à fait d'accord pour que je parte en Israël. Et c'était d'abord une bourse agricole que j'ai transformée effectivement en étude des civilisations hébraïques en Israël. Et c'est au fur et à mesure, c'est-à-dire les 5 ans que j'ai vécu en Israël, au fur et à mesure que je voyais la société israélienne, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, et je me suis vite rendu compte que la conversion telle qu'elle est toujours présentée, elle est longue, mais pas impossible. Et donc, ce qui m'a poussé effectivement à me convertir, mais en allant en Israël, je connaissais déjà l'existence des Juifs noirs, hormis les Éthiopiens. Je savais qu'il existait des Igbo pour avoir été une fois au Nigeria, et pour avoir été en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Je savais déjà qu'il y avait des Juifs noirs là-bas. Mais la question, c'était de savoir pourquoi ce silence. Je suis d'habitude un révolté et je n'aime pas trop les injustices. Et il a fallu mettre cette question sur la table. Je sais que avec les Éthiopiens, c'était un sauvetage parce qu'il y avait la famine et tout ça. Bon, ils sont partis, mais il n'y avait pas que les Éthiopiens. Et Faitlovich le dit clairement que au-delà de la terre des couches, il y en a d'autres. Donc voilà ce qui m'a poussé à aller en Israël. Et en Israël, j'y ai travaillé pendant 2 ans avant d'aller au Brésil avec Médecins Sans Frontières. Et 2 ans au Brésil, à Recife notamment, où j'ai vu aussi que bon, l'intégration des Juifs noirs là-bas, la synagogue de Kahal Tzur Israël, qui est au centre de Recife où j'ai fréquenté, je n'avais jamais eu des problèmes de mixité avec les autres Juifs. Et en Israël, c'était aussi un tout petit peu difficile parce que au début, quand les Éthiopiens sont arrivés, ils avaient l'impression effectivement que c'était impossible et qu'ils se disent qu'ils étaient Juifs noirs. Les mots noirs les gênaient. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai toujours pas compris. Pourquoi ces mots gênent tellement?
Alors, ces Juifs que vous évoquez d'Éthiopie, on continue de les appeler encore Falacha, alors que eux s'appellent Beta Israël.
Oui, c'est ça, justement.
C'est-à-dire la maison d'Israël.
Voilà, c'est ça. C'est le fait que, on laisse les gens, effectivement, dans des erreurs, et ils perpétuent ce comportement. Non, les Éthiopiens, au début, effectivement, avaient beaucoup de mal à se reconnaître, mais vraiment, quand je dis avaient du mal, dans leur ensemble, en Israël, je sais pas ce qu'ils sont allés les chercher, qu'est-ce qu'ils leur ont dit, mais on fréquentait les quartiers aujourd'hui où il y a des immigrés, les quartiers au sud de Tel Aviv. On avait 2 bars différents, c'est-à-dire que nous on fréquentait un bar et les Éthiopiens fréquentaient un autre. Tout simplement, c'est que il y avait cette opinion qui faisait croire que ils n'étaient pas noirs. Mais avec le temps, c'est maintenant quand j'ai vu des manifestations où dire on est en train de nous maltraiter parce qu'on est juifs noirs, et j'ai compris que maintenant ils sont revenus à la raison. Et il y avait ça, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi du positif, en sachant quand même qu'ils sont partis d'une situation de catastrophe naturelle et se retrouver dans la société israélienne très modernisée, c'était pas aussi évident. Mais c'était positif.
Alors, la France maintenant. Donc, vous voyagez beaucoup. Finalement, vous arrivez en France, où vous vous êtes établi de manière durable, et vous rencontrez aussi, une présence juive ancienne, importante, même si dans un passé qui n'est pas très lointain, pendant les années 20, les années 30 surtout, et bien sûr, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'État français, comme on disait, s'est montré d'une cruauté inqualifiable par rapport à ces juifs. Quelle situation vous rencontrez dans la communauté juive, vous qui êtes juif aussi, mais juif noir venant d'Afrique?
Comme je disais tout à l'heure, la comparaison a été vite faite en venant d'Israël, où je voyais que les Noirs fréquentaient, ils avaient leur synagogue, il y avait des synagogues pour tout le monde. Et le Brésil, c'était pareil. Quand je suis arrivé en France en 95, j'arrive, la première chose que j'ai vue, c'est que il y avait pas des juifs noirs dans les synagogues. La question que je m'étais posée, c'était de savoir, est-ce que c'est des juifs noirs qui manquent ou il y a un problème? Donc, j'ai effectivement fait faire une enquête journalistique d'une journaliste qui s'appelait Olivia Catan, qui m'a dit, voilà la liste, il y a des juifs noirs. Mais comment ça se fait qui ne sont pas dans des synagogues, ils sont dans des coins reculés. En Île-de-France, les 250 familles qu'il y avait, et il a fallu effectivement les approcher pour savoir quelle était leur problématique au niveau de l'acceptation. Mais là, il s'est avéré effectivement que on avait ouvert une boîte à Pandore où effectivement il y avait beaucoup de dérapages, des exclusions, des choses qui sont inadmissibles.
Donc, vous parlez d'une minorité invisible.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, en tant que juif qui n'accepte pas ce genre de comportement, j'ai été obligé avec mes collègues de mettre la chose sur la place publique. Donc j'ai eu l'aide effectivement d'un certain nombre de personnalités de la communauté juive, notamment l'ancien président du CRIF, Roger Kuckermann, et puis il y a eu les historiens comme Diana Pinto. C'est eux qui ont effectivement poussé à ce que la communauté juive s'ouvre un peu plus à leurs frères juifs noirs. Mais ce n'était pas une chose facile.
Alors, vous avez trouvé en France une situation du judaïsme qui n'est pas très simple, parce que malgré les rapprochements, etc., il y a toujours le clivage plus ou moins profond entre Ashkenaz et Séfarad. Expliquez ça aussi, parce que ce n'est pas clair pour tout le monde.
Les Ashkenaz, c'est-à-dire les juifs d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, ils sont en Europe, selon les historiens, depuis la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire que les troupes romaines qui sont allées occuper la Palestine à l'époque et ont ramené effectivement un certain nombre de juifs qui sont restés. D'abord, avant, ils sont peut-être venus comme des esclaves qui ont été libérés et ils se sont installés en Europe. C'est ce groupe-là qu'on appelle les Ashkenaz, parce que Ashkenaz, dans la Torah, c'est affilié à l'Allemagne. Donc, il y a maintenant, effectivement, les autres juifs qu'on appelle les Séfarades, qui font le tout pourtour méditerranéen, c'est-à-dire la péninsule ibérique, et puis toute la partie de l'Afrique du Nord. Et ils sont partie beaucoup plus de l'Espagne avec l'expulsion de...
Oui, ils ont été maltraités.
C'est ça. Donc, ils se sont installés dans le pourtour méditerranéen. Maintenant, qu'est-ce qui fait cette différence? C'est simplement des coutumes. Il n'y a rien d'autre. La Torah, elle est la même. Maintenant, généralement, les Juifs épousent les coutumes des pays où ils vivent. Donc ceux qui vivent dans les pays arabes, ça s'approche un tout petit peu des coutumes arabes,
notamment dans l'alimentation. Mais c'est des choses, je veux dire, tout à fait passagères et
oui, ça c'est passager,
négligeable.
Mais il en est de même pour moi qui vous parle en tant que juif africain noir. J'ai des coutumes qui ont fait que j'ai grandi au Congo. J'ai du mal, par exemple, à manger couscous ou à manger pekaïla, tout ça, gefilte fish. J'ai beaucoup de mal. Je sais que moi le poulet braisé, les poissons frits, et les pondous, les feuilles de manioc et puis les foufous. Là, je suis très à l'aise. Donc, c'est un peu banal comme différence. La seule chose, c'est que il faut qu'on mette fin à l'exclusion de l'autre. Et en France, les premiers juifs qui sont arrivés, les juifs séfarades qui sont arrivés, c'est en 1956, avec les pogroms et les dhimmis qui avaient, parce que les juifs en Afrique du Nord avaient un statut des dhimmis. Dhimmis, comment on peut expliquer ça? C'est quelqu'un qui n'a pas des droits. Donc du coup, effectivement, ils sont venus en France. Et ça fait un mélange des coutumes, la coutume séfarade et la coutume ashkenaz, notamment les coutumes alimentaires, des comportements, mais la Torah reste la même. Il en est de même pour nous en Afrique au sud du Sahara, que ce soit aussi à Madagascar où j'ai été il y a pas longtemps. Donc nous avons nos propres coutumes, on a la Torah, on a des coutumes. Moi, je ne veux pas copier les coutumes des autres alors que j'en ai une. Donc c'est un peu ce qui fait aussi la richesse du peuple juif.
Alors, un mot évidemment sur une question très embarrassante. Vous arrivez en France en 1995, la situation avait pas mal évolué, mais on se rend compte que le vieux fond d'anti-judaïsme et d'antisémitisme était toujours présent. Est-ce que vous, comme juif noir, ayant donc à la fois le judaïsme et la question de la couleur, vous en avez souffert plus que d'autres?
Oui, justement, moi, je n'avais pas, quand je suis arrivé en 95 en France, je n'avais pas la chance, parce que je suis arrivé juste au moment où la nation de l'islam s'installe en France, et je me suis trouvé en plein dedans. Et Justement, si je me suis posé la question de savoir comment ça se fait que je ne vois pas des juifs noirs, c'était pour ça, parce que je me retrouvais tout seul à me battre contre... parce que bon, les prétextes de ces gens-là, c'était bon, les blancs ne pouvaient rien leur dire parce que... les juifs blancs ne pouvaient rien leur dire parce qu'ils étaient racistes. Et donc, il a fallu que moi, je prenne les devants, avec tout ce que ça donnait, des bagarres, des blessures et tout ça. Donc, ce n'était pas évident. Maintenant... ces gens-là, les antisémites noirs, ont trouvé beaucoup des alliés. Parce que bon, généralement, comme on dit, l'antisémitisme souvent arrive sans raison. Sans aucune raison comme ça, on se met à haïr quelqu'un. Et l'histoire des juifs, des noirs de France était aussi, les conflits étaient très profond au sein de cette communauté, parce que généralement ils vivaient côte à côte, que ce soit à Sarcelles ou dans les 19e arrondissement, mais ils se connaissaient pas vraiment. Et donc ces vides a fait que bon, les antisémites noirs se sont englués dedans pour essayer de créer encore plus la division.
Alors maintenant, vous avez créé la Fédération des Juifs Noirs, qui existe donc depuis 2008, ça fait pas mal de temps. Le manifeste vise à quoi? Vous dites dans votre livre, et des phrases très très fortes, c'est le regard de l'autre qui fait de moi un juif noir. La demande ou les demandes les plus importantes, quelles sont-elles?
Comme je disais tout à l'heure, bon, le parcours a fait que bon, des 95 à 2000, c'était des tensions énormes. Bon, de 2000 à 2005, c'était aussi. En fait, l'idée de la Fédération des Juifs Noirs est partie vraiment de l'année 2000, et avec des hauts et des bas, parce que bon, les mots juifs noirs ne plaisaient pas. Il y a eu, je ne sais pas s'il faut raconter, au moins 5 procès pour dissolution, mais vraiment au pénal pour dissolution de cette association. Heureusement que les adversaires ont été déboutés, mais c'était des hauts et des bas. La première demande, c'était effectivement cette visibilité des juifs noirs. Aujourd'hui, on doit être satisfait parce que on fait partie de toutes les institutions juives en France, mais c'était pas évident parce que la haine ou l'exclusion de l'autre, c'est quelque chose qui se faisait facilement. Pour effectivement retrouver une justice sociale, c'est tout un combat, ça a pris énormément de temps. La visibilité, elle est là. On est dans les institutions, moi-même qui vous parle, je représente la fédération au sein du CRIF, et il y a des commissions, il y a des gens qui sont dans les différentes synagogues. Maintenant, c'est visible. Il a fallu démonter effectivement beaucoup de mécanismes, notamment avant la fédération des juifs noirs. Si vous demandez à un juif qu'est-ce qui a été maudit dans la Bible, tout de suite il vous dira c'est des noirs, des africains.
Aujourd'hui, ce que nous avons vu dans une autre émission qui n'est pas vrai.
Oui.
Donc vous êtes dans toutes ces institutions, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives, est une organisation très importante, justement compte tenu du passé, de l'antisémitisme, tout ça, en France. Et alors, les synagogues sont partagées, ou les juifs font leur synagogue quand ils sont séfarades, ashkénazes, ou quand ils sont noirs?
Pour un juif, il y a deux choses. Il y a la Torah et puis il y a les coutumes. Et les gens se réunissent en fonction de ces affinités. Il en est de même. C'est-à-dire que nous, si on veut des institutions du genre synagogue ou centre communautaire, ce n'est pas exclusif. Tout le monde peut venir. Mais quand on se retrouve pour manger du pondou, au moins, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai beaucoup de mal à manger le falafel, parce que 5 minutes après, j'ai faim. Donc, voilà, il y a des choses comme ça. On ne fait pas des revendications identitaires. On dit non, on peut se retrouver, parce que moi, j'étais étonné de voir que les foufous se mangent en Afrique du Sud, en Madagascar, au Nigeria, au Ghana. Donc, ça fait la fierté quand on se retrouve tous les trois en train d'étudier la Torah. On partage la même coutume, mais ça n'a rien d'identitaire, le fait qu'on parlait des juifs noirs en termes d'identité.
Merci beaucoup à vous, Gershon Ndoua. Je rappelle le titre de votre livre, Manifeste des Juifs Noirs. C'est un véritable programme qui embrasse l'histoire et qui permet aussi d'aller de l'avant. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent. Réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.